Radio Spirale. En mars 2011, Patrick Lafontaine recevait quatre poètes du Norrois pour une soirée de lecture.
Donc ce soir, quatre lectures avec tout d'abord deux jeunes poètes qui publient leur premier livre chez nous, Maïgan Lepage et Martin Labrosse, suivi d'une lecture d'une auteure chilienne du nom de Carmen Yanez. Ce sera une lecture qui sera faite en traduction par Mylène Durand. Et enfin, une lecture de Louise Côte-Noire de son dernier titre, Les Sordes. On va commencer tout de suite la soirée avec Maïgan Lepage, qui offre avec relief un titre tout à fait particulier d'une prose poétique, d'une très belle force, qui raconte l'histoire en quatre saisons d'un village, le village de l'Ascension, en s'intéressant particulièrement à son père fondateur, nommé ici Romu. C'est un texte où on suit Romu, dans sa façon de gérer son village, mais c'est pas de gestion dont il est question, mais beaucoup plus du rapport qu'il a avec les autres villageois, un rapport d'une certaine sagesse, je vous dirais, une sagesse qui n'est pas nommée ainsi, qu'il ne perçoit sans doute pas lui-même ainsi, mais une sagesse de celle du Créateur, qui sait que ce qu'il a fondé, que ce qu'il a créé repose sur le vide, porte en lui-même son propre néant et est prêt à imploser à tout moment. Et c'est un peu ce qu'on va suivre avec Romu. Cette implosion, elle vient de la structure même de l'écriture de Maïgan Lepage, qui est une écriture très forte, une syntaxe maîtrisée et qui, par cette maîtrise, se permet un morcellement dans l'avancée du texte, où le relief vient de l'intérieur même du sol du village de l'Ascension pour venir chercher Romu. Il s'agit du premier livre de Maïgan Lepage. Ce n'est cependant pas sa première publication. Il a publié sur l'éditeur internet publi.net deux titres, à savoir « Carnet du Népal » et « Vers l'Ouest ». Il est également l'auteur d'une pièce de théâtre qui a été jouée à la mi-mars au Théâtre Sainte-Catherine, une pièce qui s'appelle « Moulin », qui a été mise en scène par Alexis Lefebvre et François Tremblay. Il me fait donc plaisir de vous présenter ce soir Maïgan Lepage avec un extrait de son texte « Relief ».
Merci Patrick et merci à vous d'être ici, malgré la neige. L'Ascension. Un village coupé à blanc, sans arbre aucun sinon ses poteaux électriques téléphoniques, écorchés plantés, reliés par de gros fils noirs et bas, jalonnant le bas-côté sans trottoir, surface pauvre, arasée, rabotée de vent et de poussière. Un village saigné à blanc, la principale tranchant net et droit comme une scie d'équarissage entre les maisons de faux bois, construction dépareillée mais d'une même laideur, d'une même pâleur toute. Les deux rangées bordant la rue trop basses, trop enfoncées, trop faibles vraiment pour se faire face, s'ignorant. Et l'ignorance ici la crasse autant des maisons que des hommes. Un village chauffé à blanc. Le pétrole transformé, essence diesel mélangée, qui explose dans les moteurs de l'aube au crépuscule. L'air frémissant au-dessus des gros capots de métal moulés. Mais ces chaleurs blanches ou bleues froides presque, même l'hiver ici, le froid blanc brûle comme fer. Un village même pas, un hameau, comme une encoche, une entaille, une plaie à la peau de l'écorce terrestre. Peau coupée, saignée, chauffée à blanc. Au centre, le petit cube, briqueté, ramassé, de l'ancienne école, fermé, placardé, masse s'effondrant lentement sur elle-même, comme un appel d'air ou de vide ou de noir, menaçant d'entraîner tout le village dans le gouffre ou dans la terre où Dieu sait où ni quand. Tout autour, béton fissuré, clôture déchirée, maison délabrée. En cercle concentrique, la corruption du temps de plus en plus forte à l'approche de l'école. Mais qui l'approche encore, ce bâtiment? Il n'y a que les enfants pour hanter les constructions abandonnées. À l'Ascension, il n'y a plus, n'y aura plus que des vieux et des morts. La détectile en négatif, la grosse masse noire, quand il roule ou marche sur la principale, dans l'angle mort ou le point aveugle de leur vision. Tant de gravité, de densité dormant, grondant comme une eau sous la surface lisse, avant que l'onde de la pierre jetée ne remonte et n'explose au jour. Les vieux morts dans leur séjour vont mécaniquement sur la superficie ovalisée de la forêt défrichée et essouchée, comme les premiers, les derniers hommes sur terre, errant dans l'illusion de la platitude. La terre est plate au père qui fatigue le sol des plateaux à en oublier les gouffres qui les fendent et qu'on appelle coulées. Mais sourd du fond d'une coulée la voix des fils abandonnés. Paroles jaillissant d'un corps d'os et de roche et de bois émergeant dans le repli de la terre pour ébranler les fondations de la patrie au-dessus. Coulée. Je parle du lieu où la parole est crie, et vrombissement des moteurs et hurlement des freins, les masses de fer sous les chargements de bois, grondements répercutés dans l'encaissement du roc, énergie sans mots de l'obscure coulée. Le ciel au-dessus si immense qu'il rogne étrangement sur la terre plate, et couvre l'ascension comme une chape, une couverture de laine sur un blessé, un mort gisant sur les bords de la principale même. La rue principale qui aurait dû s'appeler la seule rue de l'Ascension, reliée perpendiculairement au rempart rouge et, en léger décalage ouest, à la route du Chenirock. Asphaltée maintenant sur le demi-mille de longueur du hameau, ligne de terre chauffée, compactée, étouffée par les rouleaux compresseurs, que chaque nouveau poids lourd qui passe compresse encore davantage. 18 roues groupées, pilonnant le vieux corps du hameau dans une odeur goudronneuse de pneus brûlés, accélérant sa vieillesse, sa mort. Hameau, si c'est même hameau que cette creusée, cette jetée de matière de gauche et de droite d'une rue polluée par le souffle des camions semi-remorques chargés de grosses billes de bois vert ou de machinerie forestière, que ces maisons inhabitables bordant une rue intraitable, que ces hommes et ces chiens traversés de part en part et jour après jour par les ronflements, les entrechoquements des lourdes mécaniques. L'ascension de Patapédia. Trois quarts de siècle environ, comme ses habitants, la naissance et la mort en ce lieu réunis. Hommes ayant bûché dur, corps rompu au travail et prématurément vieilli. A-t-on souvenir de la fondation de l'Ascension ou de sa fin prochaine? Le village isolé comme une singularité sans avant ni après. La Patapédia coule au fond d'une coulée et a nom Micmac, courant capricieux. Le temps de l'ascension comme le courant a des caprices qui agitent sa centaine d'habitants, des sinuosités, des rapides, des rebroussements où le temps se fige, tout prêt à s'inverser. Mais l'ascension, dit-on, est d'une platitude sans fin et ne doit son nom qu'à Dieu. Fondé le jour de l'ascension, le lieu dit origine s'est appelé déjà l'ascension de notre Seigneur. Les gens d'ici sont très croyants et leur vieillissement accéléré garantit leur foi. En décrivant des lignes courbes, ascendantes, descendantes, dans le ciel, les astres donnent l'illusion de tourner autour de vous. Pour qui y naît et y meurt, la petite terre plate est le centre de l'univers. Rien ne s'enlève de cette planitude de disques allongés, défrichés dans l'inconnu, gagnés sur la forêt, suspendus sous le grand dôme où dansent les soleils, les lunes, les nuages et les planètes. Où qu'on regarde, d'où qu'on regarde à l'ascension, tout est plat ou très bas, jusqu'au clocher de l'église à peine plus haut que les poteaux électriques, que les poteaux d'électricité, effondrés avec le toit l'hiver dernier sous le poids de la neige. Maintenant, la messe est célébrée dans la salle communautaire sous le plafond de 8 ou 9 pieds de hauteur tout juste. Chenirock. Monte du fond de la coulée la voix gutturale de la descendance, mot étranglé au croisement du ruisseau de printemps et du trafic de poids lourds, au gisement d'un corps de pierre et de bois et d'os émergé, comme une silhouette raidie entre les murs d'épinettes et d'asphalte, parlant pour les fils jamais nés ou morts nés ou partis là où il ne reste plus que les vieux, les morts. L'horizontale du plateau brise la verticale des générations. L'arasement de la terre assèche le lit de la géniture. Dans les coupes à blanc, rien ne repousse, rien. Mais dans le lit de roche du Chenirock, la colère du sang bouille et renaît. Et jaillit verticale la voix qui troue la surface au-dessus, par-delà les parois escarpées de la race, et précipite l'ascendance dans la descente à pic, détruisant dans l'abrupt de la coulée la fausse tranquillité du sol. Malheur à qui fonde son village sur l'ignorance. Malheur à qui s'installe tout haut pour échapper à la main du malheur. Au centre du disque suspendu, villageois, tu oublies les coulées et les colères de la terre. Tes maisons devraient pencher au bord du précipice comme tes pierres tombales pour jamais. Les morts savent mieux que les vivants les abîmes de la terre. Toi, tu marches et tu roules dans la fausse illusion de la platitude. Perché trop près du soleil, sa lumière t'aveugle et te confond. Comme au premier temps de l'homme, tu crois la terre plate et oblongue, et tu crains d'en explorer les confins de ton baie. Tu te refermes et tu durcis, et ton cœur et ta nuque. Yeux fermés, main devant, tu décimes les peuplements du plateau. Les arbres tombent, les machines de fer les emportent. Autour du village, la clairière grandit jusqu'à rejoindre les bords du plateau. La forêt est presque entièrement rasée. Les coupes à blanc, Romu, les coupes à blanc. Malheur à qui fait violence à la terre. La blancheur des coupes t'éblouit, et encore tu ignores la menace. Tu appelles ton village Ascension, et tu te crois auprès de Dieu. Et tu bûches infatigablement, et même les derniers peuplements, tu les bûches. Mais le vent et la pluie arasent et érodent les surfaces. De plus en plus fragile, la croûte terrestre sur quoi tes maisons et tes routes reposent. L'horizon du temps, de la fondation à la ruine sans cesse rétrécit. Ton village ne te survivra pas, Romu. Il vieillit et meurt à vitesse d'homme. Assez de ta fausse ascension. De tes hauteurs, Romu, je te ferai, moi, redescendre. Ma voix te porte d'une extrémité à l'autre de la terre, avec l'admiration et la violence d'un adieu, recréant sur les chemins des plateaux les aspérités et les vertiges, relevant avec toi le relief du plateau émoussé. Quand chaque horizon et en chaque saison, tu éprouves en ton corps les failles et les saillies, que le vertige pour toi soit crise, Romu, crise de cœur, épreuve du relief par quoi la croûte se fissure et se fend, et au bout toujours la plus grande épreuve du relief, la mort. Si relief dit aussi soulagement ou enlèvement à soi, à chaque extrémité de la terre t'effacer de la surface, par l'eau et le feu et la glace et tous les fléaux rabattus, les éléments contre toi déchaînés comme une grande tempête dans la tête, histoire simple d'homme pris du cœur, sachant qu'il va mourir et bûchant plus de cordes de bois qu'il n'en faut pour l'hiver afin que sa veuve ne manque pas, mais ampleur prise dans le vertige et la colère de la voix récitante, montant du fond où toute pesanteur se rassemble. Dernier horizon, dernière saison, Cheney Rock de Nord, printemps. Dans l'obscurité la plus noire, je te vois. Dans ta camionnette, tu descends vers moi. Entre tes murs de roche froide et d'épinettes noires, la lumière du soleil s'éclipse et la nuit se répand. Ton bras gauche te fait mal, Romu, et tu connais la douleur. Ton cœur et ton poing se serrent comme des nœuds aux arbres, tu n'en as plus pour longtemps. Tu te ranges en bordure de la route et tu sors de ta camionnette. Tu marches dans la coulée, mais qui marche ici à part les coyotes et les morts? Les camions aveugles passent sur la route en rugissant. Tu descends vers le ruisseau par une petite sente. Tu te penches sur l'eau, tu souffres, tu veux t'arroser le visage, Romu. Mais ta viscère se serre et se brise et tu tombes tête première à l'eau comme un arbre mort. Ta nuque durcit, Romu, ta nuque à la peau de l'eau noire. Et cette vision comme un étranglement dans la gorge. Quand cet endroit, la grande coulée de lave enfin s'arrête et se fige en un roc compact d'écriture coulée. Merci.
Merci, Megan Lepage. Vous l'avez entendu, je vous parlais d'une prose poétique. Bien sûr, je vous ai raconté un peu l'histoire de Romu du village de l'Ascension, on l'a vu ici. Mais la part de poésie est dans cet éboulement syntaxique qui... on parle ici de la coupe à blanc, bien sûr, l'idée qu'on vide le paysage d'une possibilité de l'avenir. Et ce qui tente de ressortir du sol, ce qu'on a entendu, c'est la voix des fils enfouis, entre autres, dans la coulée. Qui donne un peu sa part poétique dans une disposition particulière dans le livre Relief. La coulée elle-même prend une part bien particulière dans ce livre. Megan parlait de votre présence malgré la neige. Il y a quelqu'un qui veut un printemps très heureux par ailleurs. C'est l'animateur habituel de ces lectures, Paul Bélanger, qui est absent ce soir, mais qui vous salue. Il est en ce moment en Europe dans une tournée des pas de l'Amérique française en compagnie de Louise Dupré. Et je pense qu'il fait beau là-bas, ce que j'ai entendu, ce que Paul nous dit, il est très heureux. Je reviens à l'œuvre Relief, tout simplement souligner que en couverture de ce livre de Megan Lepage se trouve une œuvre de Peter Hoffer, qui est un artiste canadien établi depuis longtemps à Montréal, avec une reconnaissance internationale, mais des expositions surtout dans les Amériques, Amérique du Nord, mais également Amérique du Sud. Vous pouvez voir son travail actuellement et pour tout le mois d'avril à la galerie Michel Guimond dans la ville de Québec. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième lecture d'un auteur, Martin Labrosse, qui publie dans la collection Initiale. La collection Initiale au Norrois, c'est un lieu pour faire entendre de toutes nouvelles voix qui n'ont pas encore publié de livres. Martin publie en revue, dans des revues de création, mais c'est le premier livre qu'il fait paraître. Et le pari qu'on prend dans la collection Initiale, c'est de faire découvrir des voix qui nous semblent suffisamment fortes pour offrir la promesse d'une œuvre à venir. Et je dirais que Martin est tout à fait dans cette idée, dans ce sillon donc de la collection Initiale qu'elle ouvre ainsi. L'obscur obstinément donc offre une écriture de grande finesse sans rien nier à la force qu'elle peut présenter. Écriture de grande finesse qui présente une position, un motif bien particulier. celui de la sortie de soi, mais en parallèle, de façon tout à fait concomitante, l'idée également de creuser en soi un espace. Il apparaît donc une position amphibie, tout à la fois projetée hors et jetée à l'intérieur de soi, une position amphibie que le poète décrit lui-même ainsi. « Ni ma chair, ni les rues sans nombre, ni le cèdre aux branches de pierre ne viendront plus à ma rencontre. Je reste hors de tout, j'attends. » Hors de tout donc, hors de son propre être, hors du dehors, et également tout loin de l'autre. Il poursuit en disant « Est-ce mon nom par les battants entrouverts qui m'est revenu par la faille entre les mémoires? Est-ce enfin ta voix qui me quitte ?» Sans support donc, le poète avance et le lecteur avec lui. Quand je dis sans support, en fait, c'est sans support physique, avancer dans l'obscur obstinément, mais le lecteur avance avec lui dans l'écriture. Et je vous parlais d'une finesse de l'écriture. Il y a chez Martin Labrosse une attention portée à la musicalité et au rythme. Quand je dis une attention, c'est une litote. Il en va d'une grande maîtrise du travail de la forme, où Martin Labrosse n'a pas peur de la versification ni de la rime, mais sans en faire un exercice scolaire, au contraire, il utilise la rime et la versification au bon moment pour offrir l'image, ni plus ni moins, et le rythme d'un plein chant à notre lecture. Plein chant où le fort intérieur et le fort lointain se disent dans une même parole, celle d'un marcheur, donc par l'écriture d'un marcheur que l'on suit de mot à mot, dans une tension qui n'est pas insoutenable, est très bien soutenue par l'écriture, mais une tension difficile où jamais l'intérieur ni l'extérieur ne peut s'affirmer. On est donc toujours dans cette tension qui avance. Je vous présente donc Martin Labrosse qui va nous lire des extraits de l'obscur obstinément.
Obstinément. C'est le corps, dis-tu, qui charrie, comme limon l'âme frileuse, dans le cours contenu des jours, par des chemins tronqués, lieux fixes où l'on se traîne. C'est le corps en peine, dis-tu, qui nous fait rencontrer la pierre où l'on mord, et en soi niché loin du centre, où rien n'a lieu de neuf enfin, l'on peut marcher, dis-tu, sans fin. Porté par l'air des eaux. Non, ça sonne pas bien.
Allô?
Non. Porté par l'air des eaux, j'avance en nage au-devant des périls petits de mon commun passage. Souvent, je m'assieds sous un cèdre pour mâcher les noyaux du temps, noyaux souples qu'on m'a jetés et que je brise entre mes dents. Je ne sais pas vers quoi je cours, par mont, par veau, je vais avec le mime et l'immobilité. Quand sur mon œil le poids du bleu pèse très fort comme une absence, que dans le puits creusé sous lui, les arbres sans finir se jettent, je reste à distance en mon fort, où le jour fraye avec la nuit. Je soigne ma fatigue ainsi, campé là sur mon camp à soi. Moqué par la couleur, je vais contre elle, ici, je prends racine. Je vais, pour voir de près le monde, d'un pas très vif qui me ramène au lieu toujours que j'ai quitté. Or, je m'y trouve chaque fois moins lourdement moi-même, au cercle, à jamais battu, rebattu, long jour mêlé de nuit, au corps au loin tendu vers le dedans. Douceur de n'être ici qu'à peine, de courir là, seul à la ronde. Si je quittais d'un bond ma chair, pour le large où l'instant s'échoue, ô doux repos d'être à la traîne, et hors de soi des advenus de suivre ces jours de travers, je peindrais sur des toiles d'air, en profil perdu, ma tristesse, et ce bon vent me porterait en exil familier, tout bas, au bord extrême de ma vie. La nuit, par-dessus les remparts, a gagné le chemin de ronde, d'où le veilleur guettait sa peine. Alors, m'apercevant au loin, par le créneau, point de lumière au bras des ombres descendues, je m'éclipse en ma propre chair, renoue le fil cassé des heures, et rejoins l'animal distant, en sa demeure vagabonde. Je rentre à la nuit en moi-même et je m'accorde à ma douleur. Dans la rue, les autos, les arbres font un bruit qui déjà se perd. Je n'ai plus d'œil que du dedans. Je dors dans le revers du bleu. Qu'on jette sur moi l'ombre et l'heure, qu'aux fenêtres les volets cognent, qu'à l'aube entre enfin la lumière avec le vent qui nous ramène. Depuis le noyau blanc du corps jusqu'en ses bords frangés de nuit, roule sans fin le picotis qui siège à cet horizon clos. Dors-tu? J'entends croître au dehors la rumeur filante des rues. Est-ce mon nom par les battants entrouverts qui m'est revenu? Par la faille entre les mémoires, est-ce enfin ta voix qui me quitte? La nuit, dans les rues de la ville, est trouée par les réverbères. Je reste dans l'ombre, immobile, entre deux disques de lumière. Une étoile court sur le fil que les vents du jour agitèrent, et c'est dans ce mouvant exil que je voudrais ma vie entière. Plus loin passe une automobile. Je reprends mon pas ordinaire. Quand il s'oublie dans son élan, le geste d'être vous ramène au creux craqué de la mémoire, au fond secret des jours allés, ce lieu de nulle part coulant du pareil au même, au pareil, aux lisières du monde, en soi. Et vous poussez votre ombre vaine à pas lents sur la neige sale, la nuit, dans les rues de la ville. L'obscur obstinément se dresse dans l'axe du corps hésitant. Je fais un pas de plus. Vers quoi? Quel bord rêvé de cette nuit sans trêve en nous qui se prolonge à mesure de notre fuite. Ni ma chair, ni les rues sans nombre, ni le cèdre aux branches de pierre ne viendront plus à ma rencontre. Je reste hors de tout, j'attends. Pour la nuit. À demeure au bord du jour, comme un souffle qu'on retient, sans voix ni geste, l'œil rivé à la coque des heures. Le ciel crevé t'appelle en sa blessure, mais toi tu le sais bien, il faudra te résoudre à rester, celui-là, qui court dans sa chair. Les volets battent, aux fenêtres, le ciel noir infiltre la vitre en ses gerçures. Le froid creuse sous la dent un terrier de douleur. Depuis le nœud des artères, des veines que parcourent les éclats, le sang éventé ramène au cœur la lame d'air des secondes. Débusqué de ton corps, tu cherches ton souffle. Dans la chambre déchirée, la nuit déploie son domaine. Tombe la nuit de cèdre sur la chambre où reposent mes yeux plombés. Les lourdes ramures s'éploient et projettent dans la résine un peu de ma pensée, leur ombre, toute chose désormais dévêtue de leur nom. Avec le soir, l'arbre s'est obscurci. Ayant perdu par degrés ses couleurs, il a coulé d'un coup dans la ténèbre. Or, le voici depuis toujours sans bord, branche tressée aux fibres de la nuit. Cela se passait-il dans la chambre ou derrière la vitre? De ma fenêtre, j'ai tendu la main, rame des yeux, jusqu'au noir né de son nom. Arbre. Au lieu vacant qui le vit battre, les doigts se referment sur l'air. Très noir entre les murs réconciliés, qui font la chambre d'ombre dans le jour, se livre au vent la nuit d'os, et sans air, pourtant se tord aux piqûres du gel. J'ai longtemps guetté dans ma veille, cette fièvre insolite, filet de pierre sur nous. Mais je n'ai pas senti les forêts de l'air qui nous perçaient, puis perdues de lumière. Tu n'as jamais rien su, de l'animal en toi qui te découd, de la coulée du jour dans le soir, du revers des astres qui passent, au loin, dans l'unité rompue. Pauvre marcheur en rond, dis-moi, quel mot tiré de l'ombre en feu sous les feuillages, où couva longtemps la parole. Tu te lèves, c'est moi qui pars, enfin, contre le noir planté dans mes pas, perdu jusqu'à leur source muette. Je quitte ce lieu qui me vit, vaquer au vain remuement des choses, et que dans ma fuite, je me trouve hors de moi, comme en moi-même retourné. Merci.
Merci Martin Labrosse. L'œuvre, en fait, le recueil de Martin, comme c'est la tradition dans la collection initiale, montre une œuvre ici d'Andréane Dupuis-Bourret, qui est une artiste québécoise qui fait partie de plusieurs ateliers au Québec, dont l'atelier Graff à Montréal et la galerie Verticale à Laval. Vous pouvez voir une exposition d'elle dont cette œuvre fait partie jusqu'au 9 avril à la Parisian Laundry à Montréal. Maintenant, troisième auteur en lecture ce soir, il s'agit de Carmen Yanez. C'est une auteure chilienne qui nous offre ici, par la traduction de Patrick Laveau, le recueil... Ben oui... Non, Mylène Durand va nous lire donc Carmen Yanez, Portrait de lune froide. Carmen Yanez est une auteure chilienne née en 1952 qui s'est très rapidement intéressée à la gauche politique. Dès la fin des années 60, en fait, elle est dans le mouvement étudiant de la gauche au Chili. Et c'est là qu'elle va rencontrer son futur époux, qu'elle mariera en 1971, Luis Sepúlveda, le romancier qu'on connaît. En 1973, lors du coup d'État de Pinochet, elle est parmi les manifestants et en 75 déjà, elle sera emprisonnée, ce qui va l'amener en 1981 à s'expatrier en Suède. Et là va commencer un long travail d'écriture, de poèmes et de publications. Et à la fin des années 90, elle retrouvera son mari, Luis Sepúlveda, et ils emménageront en Espagne. Le recueil qu'on lit, que Mylène va nous lire, dont Mylène va nous lire des extraits aujourd'hui, est un recueil qui s'intéresse à la quotidienneté dans ces objets, dans ces lieux, dans ces moments qui semblent au départ anodins, mais qui aident à masquer la douleur. Et les descriptions fortement métaphoriques qu'utilise Carmen Yanez cache en effet une douleur qui est essentiellement liée au passé. Et elle le dit elle-même ainsi, la poésie, en fait, est la seule qui pourrait être porteuse d'espoir. Elle dira, la poésie ne sert en effet qu'à arroser les petites plantes de l'avenir. Arroser les plantes de l'avenir, donc, parce que la poésie est la seule qui est capable de tenir en elle l'idée même du bonheur et de l'amour, par son pouvoir de raconter. Et c'est le pouvoir qu'elle mettra en lien de l'idée du charme, du charme, non pas du charme facile, mais de l'ensorcellement par le biais du mot pour faire renaître la possibilité de l'amour. Ce bonheur libéré, elle le nomme ainsi, « Je retourne au rayon du passé. Cette saveur est-elle permise à table? Peut-on fouiller dans les rêves lentement, sans abîmer le velours qui recouvre le commencement de tout? Avec amour, sans réveiller des douleurs endormies et ne rapporter que le miel. » Voilà bien la fonction de la poésie chez Yanez, rapporter le miel, dire que le bonheur et l'amour sont possibles. Nous allons entendre Mylène, donc lire des extraits.
Est-ce que vous m'entendez bien? Plus proche, moins proche. Il faut dire aussi qu'il y a un disque, il y a un disque audio qui vient avec le livre sur lequel Carmen Yanez lit ses propres poèmes en espagnol. Donc moi, je vais lire la traduction française de quelques poèmes. Alors. Prodige. Amarcias Canterbury. Si en ces jours d'octobre et de bandes noires, lorsque vraiment la peur mordait les chairs et que nous amassions des noms dans les plis de la sueur, j'avais touché ton front blessé pour soigner ta blessure avec cette eau qui à présent nous unit, tu ne m'aurais pas cru. Jamais nous ne fûmes si près des roses. Te souviens-tu des rouges qui paradoxalement poussaient là-bas, au cœur même de la douleur? Belles roses. On nous refusa la faveur de leur parfum, mais pas leurs tristes épines. Si en ces jours d'octobre, à Grimaldi, quand même ton odeur ne me disait pas que tu te réveillerais, Marcia, je t'avais parlé rien que pour te consoler, pour purifier l'air de mauvais rêves, pour regarder derrière nous, prendre le temps par les cornes et reconstituer la pelure d'oignon qui nous avait couverte jusqu'alors. Si je t'avais fait une promesse, si je t'avais prédit un appel dans une ville lointaine, belle, Saint-Marc, Venise, la ville des retrouvailles prodigieuses, tu ne m'aurais pas cru. tu ne m'aurais pas cru parce que la mort battait des ailes là-bas dehors et que la bonté se taisait. Mon pays. Mon pays est un parent hautain. Il ne m'ouvre pas ses portes. Je suis l'étrangère venue avec de mauvaises habitudes toucher son visage. Je m'approche lentement, comme il a grandi. Quels yeux méprisants. Je me demande s'il sait qu'un jour nous avons en son nom assailli des murailles. Je me demande s'il sait que j'ai laissé sans clé la porte dans ma fuite pour faciliter le dépouillement. Comme ce jeune homme grandit, de quel nouveau cliché peut-il me parler? Nous échangeons expressions, regards, signes. Je souris tristement. En définitive, mes codes abritent les plus dispendieux des rêves, mais ma demeure est une barque échouée dans l'automne, en attendant l'ouverture des ports et une accalmie dans la mémoire de ce ciel. Herbe de bonne foi. Vient la bourrasque annoncée, mais je n'ai plus peur. Comme autrefois, je suis nue, toute peau, peau hérissée. Tristesse ouverte de la mémoire. Je dois protéger la légèreté où je cache mes racines. Mes yeux tourmentés répondront au défi, rien de plus. Les feuilles tombent sur la terre qui me nourrit, et une fois encore, une nouvelle fois, ma chevelure sauvage affronte l'ouragan du vent. Maison au bord du Pilès. J'ai adopté un pays, ce pays m'a adopté, avec tout mon attirail d'outre-mer. Mes effluves volcaniques, mes exhalations astrales, mes pas de tango, mon chant en nommant mes machines à souvenirs. On est sûrement du lieu qui nous accueille. L'horizon de l'hier n'en est pas moins douloureux. Je m'approprie la lumière mourante de ses rues, sa voix de cloches millénaires qui font retentir leurs mémoires et leur solitude. J'aime marcher dans ses vignobles, ses vergers, écouter la voix de ses poètes et chanter leurs vers immortels. Je rends le cep au vignoble originel et je bois le mélange aromatique du vin dans les outres que l'on m'offre. Et le mot. Légère transparence, miroir de l'eau où se reflète la forêt qui redouble de force. Eau profonde où se multiplient les mystères. Je refuse tout verbe qui étrangle la beauté dans la gueule du loup. Je veux le mot qui se glisse dans les cavernes de la terre, vers la palpitation. Certitude. Tu es ici. Les géraniums, les azalées, la récolte des fruits de l'été de ton amour me susurrent ton nom. Tu es ici. Tes pas, l'escalier qui grince délicieux, ton silence bruyant là-haut dans le grenier. Les fantômes qui te guettent, les mots qui rencontrent tes mots, ton désir, les histoires qui entrent dans la lumière. Tes colères, une tempête qui se calme avec la paix du soir. Ainsi écris-tu pour les justes, sur les simples, ainsi ta voix parcourt-elle les corniches. Tu m'es là, tu m'existes et c'est maintenant que je dois retenir ton regard. C'est le temps pluriel, le nôtre, l'occasion de parler encore d'amour. C'est le soir sur la peau dorée de soleil d'année. C'est la tendresse qui parcourt encore, et je ne sais jusqu'à quand, les veines de notre petit monde. Voilà.
Merci, Mylène Durand. Alors, nous sommes heureux de vous présenter Carmen Yanez grâce à une coédition avec la Maison française Fédérop. Et comme le soulignait Mylène, il est accompagné d'un disque compact sur lequel on peut entendre la voix en espagnol de Carmen Yanez. Nous en arrivons à notre dernière lecture ce soir et non la moindre, celle de Louise Côte-Noir qui nous présente son dernier recueil, Les Sœurs. L'œuvre de Louise Côte-Noir est une œuvre qui s'est intéressée depuis ses tout débuts à la figure de la femme, entre autres thématiques, mais une thématique des plus importantes, à la figure de la femme. Il s'agit donc d'un recueil dans une continuité tout organique là, à partir de cette thématique fondatrice de son œuvre, mais une continuité organique est des plus inattendues, je dirais des plus intéressantes, parce qu'il ne s'agit pas essentiellement de voir quelle est la différence dans l'écriture d'une femme par rapport aux hommes, mais d'une façon tout à fait pointue de ce que c'est que d'être une femme, d'être la sœur d'un frère créateur, quand soi-même, comme femme, nous sommes une créatrice. Donc, Louise Côte-Noir, dans ce recueil, nous présente trois créatrices, à savoir Alice James, Camille Claudel et Fanny Mendelssohn, toutes les trois sœurs de qui l'on sait, de ces créateurs qui ont été connus et reconnus. Et elle nous présente donc ce que peut être la pensée de ces femmes dans une avancée créatrice qui est niée. Ces trois femmes donc prennent parole par l'écriture de Louise Scott Noir en tentant de définir ce que c'est que le désir de création quand on le rabaisse à la quotidienneté, quand on le nie, quand on le renvoie à un travail, comme je dis, du quotidien, des objets qui nous entourent, etc., et quand on n'accepte pas sa venue à jour. Il n'y va cependant pas d'une écriture de la victimisation. Au contraire, l'écriture de Louise Scott Noir laisse transparaître une conscience aiguë de la position qu'occupent ces femmes. Et c'est une conscience, bien sûr, malheureuse, mais une conscience d'autant plus aiguë qu'il n'y a pas, par exemple, si on avait fait le procès de Camille Claudel par rapport à Rodin, à savoir, dans un discours amoureux, qu'est-ce qui doit être laissé de la création, qu'est-ce qui peut être pris, qu'est-ce qui est de la part de l'émotion. Maintenant, on est dans un regard très froid entre frères et sœurs, dès la toute première éducation, quelles sont les cases qui sont liées à chacun et quel est le terrain de jeu que l'on permet à chacun. Donc, ces femmes tentent, bien sûr, de vivre leur création, mais surtout de répondre à la question fondamentale qui est posée dans le recueil, mais qu'est-ce donc que la vie d'une femme? Par ailleurs, il y a dans l'écriture, et c'est un beau paradoxe, il y a dans l'écriture de Louise, telle qu'elle le pratique également dans d'autres recueils, il y a une pratique de la filiation très affirmée, avec de nombreuses références à des auteurs, par exemple des auteurs féminines, bien sûr, qui ont réfléchi à la position de la femme comme créatrice, on pense à Virginia Woolf, mais également à des auteurs masculins. Il y a donc ce rapport à la filiation qui est pris en compte par l'écriture pour décrire la vie de trois femmes qui, par ailleurs, ont été délaissées à cause d'une certaine filiation avec les hommes. Il y a une prise en compte de cette filiation par Louise Scott Noir. Il y avait, ça m'a fait penser à un autoportrait qui est paru dans Lettres québécoises l'été dernier, où Louise Scott Noir disait que son frère aîné volait des livres, et que c'est ainsi qu'elle a découvert la littérature française, la littérature américaine et certains livres interdits. Il y avait là donc une filiation qui est une filiation, malgré le vol, toute positive. Il y a donc une certaine lumière dans ce recueil, et je crois qu'elle tient à cet équilibre. Aucune victime, mais une lumière sur la vision d'une femme, bien sûr de Louise Scott Noir, sur la création de trois femmes créatrices. Donc je la laisse nous lire des extraits de Les Sœurs de.
Merci beaucoup d'être présent. J'espère être à la hauteur de tout ce que Patrick vient de dire de si juste et de si pertinent. J'ajouterais une seule chose, c'est que j'ai voulu ce livre comme pour montrer la force de vivre. Malgré tout ça, elles vont durer. Oui, je suis pas grande, moi. Merci. C'est bon, parfait. Alors, en épigraphe de l'ensemble, puisqu'il a donné si bien le ton, Patrick, la célébrité est comme une drogue. Et quand vous avez quelqu'un de célèbre dans votre famille, tous les autres membres en sont affectés. À bien des égards, elle les modèle et les déforme. C'est tiré de Russell Bank. Alors, je vais vous lire, pour les besoins du temps, la troisième partie qui concerne Camille Claudel. Elle s'intitule « Récit de l'enfance ». En épigraphe à cette partie, une phrase de Michel Desbordes. « La beauté, la nature vive et fantasque, et ce don qu'elle avait, venu d'on ne sait où, de faire surgir dans l'argile, dans la pierre, le profond et le tragique d'un rêve, et disait-on déjà, le plus indiscernable, le plus éphémère. » Récit de l'enfance. C'était hier, je crois, au temps des cris malades du grand-père à l'intérieur du presbytère, de mon prénom androgyne et du tien double, pour la protection contre les morts. Mère les chérissait près du verger. Au temps où je courais pour masquer ma légère claudication, où Louise deviendrait musicienne, toi, écrivain, et moi, téméraire, sculpteur. Au temps de mes premières mortes glaises mises au four, de cette très vieille et ridée victoire, et de ta fascination pour les cathédrales. Dans le grand silence asilaire, je nous recommence. Ma main droite dessine sur le vide. Par cœur, j'esquisse en mémoire ton buste. Mon frère, 1884. Assise au seuil de l'enfer, je guette avec ferveur l'instant de ta venue, petit Paul. L'intensité de cette attente me soutient tout le jour. Toi, tu voyages à travers les villes longtemps rêvées. Moi, je suis si seule, avec ma pure peine, ma pure peur. Immaculée Conception, naissance de la mère et de la fille, toutes deux abandonnées. L'une à l'orphelinat, l'autre à l'asile. Infâme mouroir. Les arrachements répétés tuent. Les cœurs se déchirent avec les corps séparés. Alors, je sculpte des femmes s'arc-boutant, implorantes ou agenouillées devant des âtres sans feu, sans le creux d'une épaule, ou se blottir. Car il faut bien que la douleur trouve un lieu qui l'accueille. Au centre de l'austère demeure, aujourd'hui interdite, je rameute les souvenirs des jours tous pareils, sous la férule des convenances. Je renonce avec les jeux complices des enfants, mal aimés. J'y retrace mon amour démesuré pour la statuaire, échappatoire aux querelles domestiques. Avec des vocables sereins, je me réajuste. Le visage maculé de boue, les mains couvertes de glaise, ma blouse tachée d'argile, mes cheveux blanchis par le gâchage du plâtre, innocence et bonheur. À l'asile, on dit, elle est en enfance. Enfant prodigue, je désire entrer chez mon père bien-aimé. Je réclame la liberté à grands cris. Crépuscule de chagrin à la fenêtre grillagée, déperdition consentie avec l'évanouissement des paysages familiers. Je ne discerne plus que l'ombre qui s'émousse quand vient la nuit. Le spectre du père erre avec le vent violent au milieu de la dure campagne de l'enfance. Sa vieille âme devenue impuissante refuse toujours que je m'abîme dans l'anonymat. Nu-pied, je traverse un champ bordé de clôtures. L'herbe haute et grasse frôle mes jambes, c'est la fin de l'été. L'odeur des prés à vaches mêlée au goût des murs cachés sous les branches griffues, la fraîcheur du soir. Je m'accroche de toutes mes forces à cette tendresse perdue, à cette lumière trop brève. Nulle part ailleurs, je n'ai été si totalement comblée. Perché en haut du pommier, le petit Paul n'oublie pas. Son visage fermé sous mes paumes habiles à le statufier. Paul a 37 ans. Ses yeux crus, déjà fossilisés. Son arrogance cache mal son angoisse. Il cherche à se débarrasser de la violence de mon regard bleu nuit, mon ironie assassine, mon rire narquois, cette tête dure de folle. Il croit en Dieu et en son œuvre. Je retrouve le mouvement régulier de mes mains d'où naît une chevelure en paillet, en grosses nattes de fil de carré, ou bien le buste enlisé d'une femme. Le petit Paul, incapable de se détacher de mes sculptures sans tomber dans les ténèbres. Il s'obstine à n'y voir qu'une obscène nudité. L'effroi sur les os de son crâne. Une fièvre mauvaise le consume. Il sillonne les mers, tandis que mon visage se fond aux eaux usées des caniveaux. Mon ardeur va à la pierre, comme à un appel pressant. Tout est claustration, et ton silence sans fin, jusqu'à la fin. Tu me laisses mourir sans sépulture, ma tombe même disparue. Je dure contre, je suis un monstre de durée. La vie est un exténuement. Je reste là en faction devant l'inaccompli. La sculpture est mon unique foi. Les causeuses chuchotent. Petit Paul, qu'as-tu fait de ta sœur? Au Sainte-Marie, en Camargue, Paul m'y conduit en voiture, calmement heureuse, vêtue de ma robe neuve, un calicot, une étamine bleue, une toile douce où passe l'air, la brise du bord de l'eau. Les formes encore occupent ma tête, j'en saisis les lignes cachées, au cœur de la matière, comme au centre de tes mots. Simèle, venue des océans et des trahisons traversées, ta voix de malice, ma sœur Camille. Avant que la nuit ne m'engloutisse, je supplie, rends-moi à moi-même. Je refuse de mourir dans ton nom. Excusez-moi.
Merci à Louise Côte-Noir pour cette première lecture. Vous avez en page couverture du recueil de Louise une œuvre de Marc Séguin. Marc Séguin, qui est un artiste québécois, un romancier également québécois avec une renommée internationale. Et si vous faites un voyage à New York pendant le mois d'avril, vous pouvez le voir dans une galerie, la galerie McVice, donc à New York. Il ne présente pas les œuvres liées à cette suite-là. Ce sont des œuvres de grandeur historique. Ce sont des œuvres différentes, mais donc le même artiste. Le même artiste qu'on retrouve en page couverture du bulletin qui souligne les 40 ans du Norrois. Un bulletin dont on n'est pas peu fier parce qu'il regroupe plus de 60 collaborateurs, des poètes du Norrois, des éditeurs étrangers, des artistes, des amis de la maison, qui donnent un peu leur vision du Norrois pour célébrer justement ces 40 ans d'édition. Donc c'est une œuvre de Marc Séguin qu'on trouve en couverture, une œuvre qu'il a offerte, c'est une eau-forte, qu'il a offerte en 40 exemplaires au Norrois pour financer les activités des 40 ans et qui est toujours en vente à un prix fort avantageux. Si vous êtes intéressé par cette eau-forte, bien sûr, c'en est une reproduction, mais au coût de $650, donc nous l'avons au Norrois. C'est une œuvre qui, pour nous, est fondamentale tout à coup parce qu'elle nous permet de renouveler l'image du Norrois et d'offrir le nouveau logo que vous pouvez voir à l'endos du bulletin, inspiré par cette eau-forte. Le bulletin est bien sûr offert gracieusement, donc ça nous fera plaisir de vous en donner un exemplaire si vous ne l'avez pas déjà à la fin de cette lecture. La fin de cette lecture, donc, je voudrais remercier en ce moment même les auteurs qui ont lu Maïgan Lepage, Martin Labrosse, Mylène Durand pour Carmen Yanez. J'avais que Carmen en tête. Mylène Durand pour Carmen Yanez et Louise Côte-Noir. Remercie également Olivieri pour nous accueillir ici, saison après saison, pour ses lectures, nous aider à la technique également. Merci à Normand Poiré pour la prise de photos et merci surtout à vous pour votre présence qui est essentielle à la vie de la poésie. Les auteurs sont présents pour répondre à vos questions, signer leurs œuvres, bien sûr, pour vous et parler poésie. Alors, je vous y invite. Merci à vous. Bonne fin de soirée.